Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After Live. Une grande soirée, 4 heures à vos côtés pour le lancement de la 33e journée de Ligue 1 avec deux destins croisés évidemment. Lens qui touche la Ligue des Champions du bout des doigts et Nantes qui se dirige vers la Ligue 2. Voilà le programme. À mes côtés, Florent Gautreau. Salut Flo.
Salut Karine, salut à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien.
On va se projeter sur cette 33e journée. On le rappelle, hein, normalement, on devrait avoir tous les matchs au même horaire pour évidemment qu'il y ait une équité sportive totale. Mais avec la LFP, il y a toujours des petites différences et des petites exceptions. C'est le cas ce soir. Donc, Lens, Nantes. On va tout de suite prendre la direction de Bollard pour retrouver notre duo de commentateurs, Jean Baumel et Aurélien Tiercin. Bonsoir, messieurs.
Salut Karine, salut Flo, bonsoir à toutes et à tous.
Salut les amis.
Salut les gars.
Messieurs, on va parler évidemment des deux clubs. On l'a dit, ce sont deux objectifs très différents. Lens qui a le sourire, Lens qui rêve de marquer ce petit point synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Et puis Nantes est au bord du précipice. La Ligue 2 lui tend les bras. On va s'intéresser déjà à l'ambiance. Gibo, comment est-elle du côté de Lens? Lens qui reste sur deux nuls consécutifs.
Bah pour l'instant, c'est assez calme. Hein. Il n'y a même pas la moitié du stade qui est rempli. On est quand même au 85e match à guichet fermé consécutif, en match officiel. Donc c'est une série qui va encore durer très longtemps, puisqu'il y aura la Ligue des Champions certainement la saison prochaine. Et on va s'arracher les abonnements. Hein. C'est 29 000, pas plus. Hein. Et il reste 9 000 billets pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc le stade est un peu trop petit, mais c'est comme ça. Mais il y aura une énorme ambiance, ça c'est certain, parce que si à l'issue de cette soirée, il y a un point, bah c'est la Ligue des Champions dans la poche, mais si à victoire surtout, c'est la deuxième place qui est assurée. Et donc ça permettra d'avoir un match de gala à moins que le Paris Saint-Germain s'écroule totalement et qu'on va relancer, on va reparler de titre, mais on n'y croit pas trop ici en tout cas. Et un dernier match à Lyon avant cette fameuse finale de Coupe de France face à Nice, mais le vendredi 22 mai.
Mais l'ambiance était quand même particulière à l'extérieur du stade, oui. Je trouve, Gibo, parce que là il y avait une procession avec des pots de fumée, sang et or évidemment, des drapeaux. On sent quand même qu'à l'extérieur du stade il y a une détente et un plaisir particulier.
Bah, comme c'est les 120 ans, les Red Tigers, c'est les ultras du Racing Club de Lens, sont partis de la gare et ils ont fait un cortège pour arriver jusqu'au stade pour mettre un peu l'ambiance. Mais en tout cas dans l'enceinte pour l'instant, on garde son énergie pour mettre une pression sur les Nantais dès le début du match. Même si du côté lensois, il y aura des choses à raconter sur la compo et par rapport aussi aux absents.
Eh ben justement, tu vas tout nous dire parce qu'il y a des choix également de Pierre Sage, même s'il y a énormément d'absents. Quel sera donc le 11 de départ pour aller chercher cette qualification pour la Ligue des Champions? On rappelle, hein, il me suffit d'un point et Lens retrouvera la Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était lors de la saison 2023-2024.
Alors il y a 5 absents, c'est 5 titulaires quasiment assurés pour l'équipe de Pierre Sage. On va les rappeler quand même. Abdoulhamid Sangaré et Thomasson donc sont suspendus. Saint-Maximin et Thauvin sont alors pas blessés, ils sont préservés parce qu'ils ont des petits problèmes. Ils veulent surtout pas prendre de risques en vue de la semaine prochaine et des deux matchs l'enchaînement Paris-Lyon et surtout la finale de la Coupe de France. Et on a eu, on pensait voir Sotoka, on pensait voir Aguilar qui vont rester finalement sur le banc. Et le poste de latéral droit, on a un petit point d'interrogation. Tout d'abord, Risser bien sûr dans le but. Les trois axios, c'est Sarr, Baïdou, Gagnou. Là, il n'y a pas de problème. Piston gauche, Udol. Et peut-être piston droit, Sima, puisque c'est pas impossible qu'il joue à ce poste-là. Ou alors il va passer à 4 et mettrait plusieurs joueurs offensifs. On aura Haïdar Abulatovic pour remplacer la paire Sangaré et Thomasson. Et donc les joueurs offensifs. Le retour de Saïd, Hudson Edouard et Ryan Fofana. Va-t-il mettre Sima latéral droit ou Sima en attaque avec un changement total de système? C'est l'une des réponses qu'on aura dès le coup d'envoi d'ici 40 minutes.
On va parler dans quelques secondes de la composition d'équipe avec Flo, mais peut-être Aurélien, tu peux nous donner également le 11 de départ nantais, même si Nantes est quasiment en Ligue 2. Tu peux nous rappeler déjà le contexte pour espérer voir Nantes jouer les barrages? Ça paraît mission impossible.
Bon, c'est archi simple. Si tu ne gagnes pas ce soir à Bollard, qui est la deuxième meilleure équipe d'Europe à domicile, si tu ne gagnes pas ce soir, tu es officiellement relégué en Ligue 2, parce qu'il y a 5 points entre le 16e Auxerre et le FC Nantes 17e. Donc la mission paraît quand même très compliquée. Vaid Halilhodžić, le coach, sait donc qu'il doit s'imposer ce soir. Il a quand même aligné un 5-3-2 avec Anthony Lopez qui revient dans les cages. Il s'était fait mal à un doigt, il avait laissé sa place contre l'Olympique de Marseille la semaine dernière. dernière, donc Lopez dans les cages, Aouaziem à Capendier et l'immense Uros Radakovic titulaire derrière. Première titularisation de la saison pour le Serbe qui était qualifié de joueur plus que moyen, puisque le FC Nantes, à peine recruté l'été dernier, voulait le revendre. Il n'avait pas le niveau d'un joueur pro, donc visiblement il a dû progresser durant la saison puisqu'il a sa chance à l'antépénultième journée de championnat. Nicolas Kozza piston gauche, Frédéric Gilbert piston droit, Sissoko Kaba le pedant au cœur du jeu, et puis devant peut-être l'espoir nantais, c'est Ganago Ablin, le duo qui avait fait très mal à l'Olympique de Marseille antépénultième, ça veut dire avant-dernière, donc je me suis trompé, c'est l'avant-dernière journée de championnat pour Nantes.
Merci beaucoup. On rappelle que Nantes effectivement avait eu un petit peu de sursis le week-end dernier en battant largement Marseille 3-0. Flo, quel regard tu portes sur les choix des entraîneurs? Et aussi, moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'au final on nous explique que la 33e et 34e journée normalement sont vraiment sanctuarisées. C'est absolument pas le cas, parce qu'on joue ce soir alors que tout le monde devrait jouer en même temps, parce qu'il y a des équipes qui ont aussi des matchs en retard comme Lens. Finalement, c'est un gros bazar.
Ouais, c'est clair que c'est pas normal. C'est vrai que normalement ces deux journées là on doit pas y toucher. Après, j'ai envie de mettre un bémol ce soir, parce que Lens, et je voulais justement y revenir, c'est quasi fait, c'est-à-dire qu'ils sont deuxième, ils seront pas premiers. Nantes, c'est quasi fait, ils sont en Ligue 2. J'ai envie de dire, heureusement que ça ne joue pas, on va dire, sur la dramaturgie et sur la psychologie de cette avant-dernière journée. Maintenant, c'est vrai que ça devrait se jouer le même jour. Après, sur la compo, c'est intéressant, parce que dans ce que fait Sage, lui aussi, quelque part, il enjambe un peu ce match. Je dis pas qu'il le prend par-dessus la jambe, hein, mais il pense à d'autres échéances quand il préserve Thauvin et Saint-Maximin, même s'ils ont sans doute des petits soucis. On voit bien que, alors qu'il y a déjà Sangaré et Thomasson qui sont suspendus, on voit qu'il y a, voilà, il y a des choix qui sont faits aussi en vue évidemment de la finale de la Coupe et de la fin de saison, et je pense surtout à la finale de la Coupe. Donc quelque part, ce match, oui, il est important, parce qu'il va sans doute sceller quelque chose, avec, comme on l'a dit, les enjeux, un point est en Ligue des Champions, et puis défaite de Nantes, et Nantes est en Ligue 2. Mais déjà dans la compo, on sent que Pierre Sage a la tête ailleurs. Et l'autre point de la compo, à mon avis, et notamment concernant peut-être Sotoka, mais on se souvient de sa sortie violente, entre guillemets, même si on était un petit peu excusé après, sur les joueurs et les remplaçants qui n'avaient pas fait honneur au maillot. Dans les choix qu'il fait, ouais, c'est ça. Dans les choix qu'il fait, il n'a pas oublié non plus ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant, même s'il y en a qui reviennent évidemment, c'est intéressant de voir que la compo de Pierre Sage, pour moi, c'est une compo quand même qui veut dire, écoutez, ouais, ok, on a beaucoup de respect pour Nantes, mais je pense qu'on va s'en sortir là-dessus. Ça veut dire aussi que le titre, il n'est pas fou, t'as 6 points de retard et t'as un golavérage très défavorable. Non, ce qu'il faut, c'est sanctuariser ce point pour aller en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Et donc, sa compo, elle montre quand même qu'il y a d'autres objectifs ailleurs.
Ouais, ce que tu dis, Flo, c'est intéressant, parce que c'est sûr que de voir Sotoka et surtout Aguilar, qui est un spécialiste du poste de latéral droit, parce que Abdoulhamid est suspendu, on verra si c'est Sima qui va ou un autre, mais ou passer à 4, mais ne pas mettre un spécialiste comme Aguilar, ça peut surprendre.
Alors Aguilar, et on sait apparemment qu'il faisait partie, il y a peut-être un petit souci, parce qu'apparemment il n'était pas au dernier entraînement, si j'ai bien compris.
Oui, mais bon, il est dans le groupe, il est sur le banc, donc et il faisait partie des joueurs des quatre avec Saïd, Sotoka et Masuaku, qui avait été changé assez rapidement en deuxième mi-temps à Brest. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Après, on va pas certifier que il est barré, qu'il y a un souci avec Aguilar, mais ça surprend un petit peu et ça peut soulever quelques regards par rapport à ce qui s'était passé à Francis Leblay.
Il y a un autre point aussi intéressant, c'est sur le staff médical, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques petits problèmes et c'est dans beaucoup de clubs, hein, que ça se passe, sur la disponibilité des joueurs, les réels problèmes physiques qu'ils peuvent avoir.
Oui, les questions autour de Baïdou notamment.
Ouais, de Baïdou, il y en avait eu tout à fait, et là en tout cas il s'en remet aussi pour préserver Thauvin Saint-Maximin. Il l'a dit dans en conférence de presse avec un petit sourire d'ailleurs. Il s'en remet aussi aux recommandations médicales, donc il y a de la gestion sur cette fin de saison, ce que je trouve moi plutôt logique, parce que pour le coup, Lens a une marge par rapport à Nantes normalement, hein, même si pour avoir vu les deux derniers matchs de Nantes très précisément, celui à Rennes et celui contre Marseille, Nantes méritait beaucoup mieux que la défaite à Rennes, et Nantes a écrasé Marseille. C'est une fin de saison qui va laisser sans doute des regrets aux Nantais.
Effectivement, des regrets. On va en parler un petit peu de Nantes avec toi, Aurélien, parce que c'est vrai que finalement, c'est une chute qui est prévisible. Ça fait plusieurs années que Nantes flirte avec la relégation. Là, tu l'as rappelé, hein, a priori, ils vont y retourner. On rappelle que la dernière relégation date de 2009 et que 4 ans après, ils étaient retournés en Ligue 1. C'est beaucoup, beaucoup de déceptions, mais un club qui se prépare déjà à la Ligue 2 la saison prochaine.
Oui, exactement. On se raconte pas trop d'histoires. Alors Vaïd essaie évidemment de motiver ses troupes en parlant de miracles qui restent toujours possibles. Mais le club se prépare à la Ligue 2, recherche un entraîneur pour la saison prochaine. D'ailleurs, il s'intéresse à Stéphane Gilly, l'ex-coach du Paris FC. Il y avait eu aussi des touches avec Pantaloni, mais ça s'est pas fait. Alors peut-être que le coach n'était pas chaud, mais visiblement Franck Kita non plus n'était pas forcément sûr à 100% du choix. Pantaloni, donc on est encore un peu dans le flou. Baptiste Drouet est parti de la cellule de recrutement en critiquant ouvertement la direction et en disant que le club était un petit peu parté à volo ces derniers mois, même si ça flirte depuis pas mal de temps avec la Ligue 2. Donc ils vont très probablement y aller, malheureusement, les Nantais. Et d'ailleurs, au 21e siècle, ce sera la troisième relégation, et à part Troyes et Metz, aucun club n'a fait pire. Donc finalement, c'est pas une surprise de voir ce club couler, même si, comme l'a dit Flo, il y avait certainement mieux à faire et il y a eu des belles performances. Même le match au Parc, tu perds 3-0, mais la première période elle est pas du tout indigne de la part des Nantais. Ils auraient dû, à mon avis, même égaliser, mais voilà, le VAR a vu un petit hors-jeu de 2-3 cm du pauvre Louis Leroux. Mais ils sont quand même dans une meilleure dynamique depuis que Vaïd Ali Lodzic s'est installé sur le banc. Mais voilà, on se raconte pas d'histoire. La Ligue 2, c'est très probablement pour ce soir. Il y aura un match pour l'ennui absolu la semaine prochaine à la Beaujoire contre Toulouse, pour nous revoir à la Ligue 1, et puis on va se préparer tranquillement à vivre malheureusement une saison de Ligue 2 la saison prochaine à la Beaujoire.
Et c'est vrai que l'interview de Baptiste Drouet, le responsable du recrutement de Nantes, elle appuie une nouvelle fois sur ce qui fait mal à Nantes, c'est-à-dire la direction et la façon dont ça se passe. Quand il y a un bouquin sur les coulisses encore de cette saison à faire, c'est-à-dire que sur les choix, sur le fait de pas soutenir les coachs que tu mets en place, sur les clans qui existent, sur là, Baptiste Drouet s'en prend également aux responsables du recrutement du centre de formation de Nantes. Donc tu sens que, comme d'habitude, et c'est ce qu'on dit depuis longtemps, à la Genelière, rien n'est carré, et pour un coach, c'est l'enfer, parce que tu sais pas du tout si tu vas rester 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et c'est vrai que quand tu lis ça et quand tu sais ce qui s'est passé cette année, c'est dommage. Et Vaïd l'a dit, c'était assez intéressant quand il a dit, alors bon, évidemment c'était un peu à son avantage, si j'étais arrivé quelques semaines plus tôt, je pense que c'était tout à fait réalisable, mais cela dit, il n'a pas tout à fait tort. Je pense que en dehors, on va pas revenir du problème structurel qui fait que faut savoir quel cap sportif tu veux donner. Est-ce que tu veux à nouveau t'appuyer sur la formation, la Genelière, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait moyen de faire mieux, et les matchs de cette fin de saison, c'est paradoxal, mais sont plutôt de très bons matchs de la part des Nantais.
Et on rappelle qu'il aura fallu attendre donc le week-end dernier pour avoir la première victoire pour coach Vaïd. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des scénarios quand même très frustrants, notamment on se souvient également du match nul face à Brest avec cette expulsion que finalement même le corps arbitral avait reconnu être comme une erreur. On va parler évidemment aussi de Lens, et nous sommes avec Maxence qui est supporter nordiste. Salut Maxence.
Salut tout le monde.
Salut Maxence.
Maxence, tu as une fin de saison passionnante. La Ligue des Champions, bon, a priori, elle pourrait être d'ici 3 petites heures du côté du RC Lens. Il y a aussi la finale de la Coupe de France. On rappelle que vous êtes le seul club à ne jamais avoir gagné la Coupe de France tout en étant champion de France. Pour toi, c'est une saison pleinement réussie?
Oui, forcément, quand on voit notre budget et selon les attentes, avec un staff qui s'est remodelé, un nouvel entraîneur, un nouvel effectif. Oui, c'est une saison réussie. Après, on peut avoir quelques regrets, notamment quand on voit qu'on avait certains matchs à notre portée, notamment pour le titre. Donc, je pense à Monaco et d'autres matchs, et sûrement dû à le fait que tout notre côté droit soit blessé. On pense à Baïdou, on pense à Antonio, on pense à Aguilar, on pense à Granit, qui étaient, on va dire, un peu tous blessés en même temps et qui nous a grandement affaibli. On a dû faire avec Chelik qui est un peu bricolé. Bon, on va dire que ça s'est pas trop mal passé, mais on peut avoir quelques regrets sur ça. Mais bon, on va pas non plus se peindre. On a une finale à jouer. Et puis là, on est en, je crois que la Ligue des Champions, c'est à peu près assuré.
Oui,
et
vous,
et donc on va vraiment pas se plaindre.
Maxence, je te trouve timide, hein, quand même. Et t'imagines que si on t'avait dit au mois d'août, tu vas être là le 8 mai en train de disputer un match tranquille pour t'assurer peinard ta qualif en Ligue des Champions. Tu auras bataillé longtemps pour le titre et tu es en finale de coupe. Et non, je ne trouve pas très enthousiaste quand même. Hein.
Ah non, je suis extrêmement enthousiaste. Je suis super content, vraiment. Je sais que la semaine prochaine, on va jouer une saison de fou. Mais sérieusement, j'étais hyper optimiste pour le titre. Et à partir du match de Monaco, on perd 3-2, on se fait remonter. Ça, on va dire que... Ouais.
Tu l'as pas digéré.
J'ai pas super bien vécu.
Je crois que l'histoire... Ah, t'as raison, hein, c'était tout à fait envisageable. Mais l'équipe... quelque part, et Pierre Sage l'a un peu dit aussi dans cette fameuse interview, l'équipe qui tournait, c'était une équipe à 12, 13, 14. C'est-à-dire vraiment l'équipe type, elle était là. Et tu sais que dès que tu es sorti de ça, tu as commencé à avoir des soucis. Le premier, c'était Gradit, qui a été plutôt bien géré. Mais ensuite, quand ça s'accumule, c'est un peu plus compliqué. Et à ce niveau-là, face à un PSG, même parfois en rotation, tu es quand même en difficulté dès qu'il te manque des joueurs. Donc évidemment que tu as pu rêver, mais sur le papier c'était difficile d'envisager d'avoir tes 12, 13, 14 joueurs titu parfaitement en forme de A à Z. Et ça, Pierre Sage l'a sans doute ressenti. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, je vais te dire, c'est pas la fin de saison qui est géniale à vivre.
C'est la prochaine.
C'est la prochaine.
Et justement,
c'est plutôt vers ça que tu vois, je comprendrais des inquiétudes potentielles sur l'avenir de Pierre Sage, de certains joueurs, etc.
On va en parler justement avec toi, Jibo, parce que Flo a raison. On sait forcément que Lens travaille déjà sur la saison prochaine avec cette Ligue des Champions qui est vraiment à portée de main. C'est quelle est la tendance? On se souvient que la dernière fois que malheureusement ils ont joué la Ligue des Champions, ils avaient fait exploser le budget et Arnaud Pouille avait fait de graves erreurs. Donc là, il faut surtout pas refaire les erreurs qu'on a commises il y a quelques saisons.
Bah ça c'est clair, parce qu'en fait les choses sont déjà écrites, c'est-à-dire que notamment pour les fins de contrat, les dossiers les plus importants, c'est Malang Sarr et Adrien Thomasson. Alors il y a des bruits comme quoi Sarr pourrait partir en Arabie Saoudite. Pour l'instant le club, en tout cas moi j'ai, on n'a pas de confirmation à l'instant T, c'est pas, il y a rien de signé, mais ils vont pas augmenter significativement. Il y a une proposition sur la table, j'en ai parlé avec des personnes du club, et ça ne devrait pas évoluer. Peut-être qu'une finale de Coupe de France gagnée, peut-être qu'avec la Ligue des Champions il y aura peut-être un petit effort de fait, mais il y aura pas de folie, il y aura plus d'achat de joueurs comme Eli Wahi à l'époque, 30 millions d'euros. Vous imaginez, le budget de Lens aujourd'hui c'est 60 millions d'euros. Ils vont forcément rajouter plus de 50 avec la Ligue des Champions, mais ça sera, il faudra recruter malin comme ils ont fait cette année. Mais Jean-Louis Lécasse s'attend forcément, même les dirigeants lensois s'attendent à une saison beaucoup plus compliquée l'année prochaine avec la gestion de la Ligue des Champions, le championnat, parce que refaire ce qu'ils ont fait cette année, ça sera très quasiment impossible. Et ils vont se faire attaquer sur plein de dossiers, hein. Sangaré, il a des propositions en première ligue. C'est pour ça que c'est intéressant ce soir de voir Haidara Bulatovic, puisque Thomasson et Sangaré possiblement ne seront plus là la saison prochaine. Baïdou, je pense qu'il va rester parce qu'il était très bon début de saison, mais sa blessure fait que ça va se donner un petit peu plus de facilité à le garder l'année prochaine. Mais oui, ça va pas être simple l'intersaison. Il y aura encore des mouvements, mais il n'y aura pas de folie. Je crois que le budget de recrutement va tourner autour de 25 millions d'euros au total.
Enfin, t'as rien pour 25 millions.
Bah oui, mais t'as acheté Sangaré 8. T'as acheté Tovin 6.
Oui, mais après, quand tu joues la Ligue des Champions, tu sais que les prix sont quand même plus élevés aussi, Jibo. Là, c'était des prix non Ligue des Champions.
Oui, mais tu vas pas jouer la saison prochaine en disant on va rejouer la Ligue des Champions. Tu feras au mieux, tu essaieras d'être pas ridicule en Ligue des Champions, mais tu te mettras pas dans le rouge, ça c'est certain. Ils vont pas l'économie du foot français est tellement compliquée, en plus avec les droits télé qui sont misérables entre guillemets, ils peuvent pas se permettre de faire un crash.
L'OM a prouvé que pour 120 millions t'as rien non plus.
Oui,
donc
voilà.
Quelque part autant recruter un petit peu.
C'est sûr que l'exemple marseillais n'est rarement le bon, mais c'est vrai que Flo, il y a des postes toi clés qui doivent être ciblés pour la saison prochaine, pour essayer de faire voilà une campagne honorable, potentiellement les barrages.
Alors déjà je pense que le cas Thomasson est un cas très intéressant et très important pour l'effectif, mais moi j'irais même tout de suite sur le banc de touche. C'est parce que moi je pense que la question va se poser pour Pierre Sage sur le fait de rester ou pas, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il peut anticiper lui aussi ce que tu expliques, c'est-à-dire la difficulté de la saison d'après avec un budget de recrutement plutôt limité. Il a 2-3 trucs comme je disais les errements la médicaux qui lui ont déplu. Bref, moi à mon avis c'est ça la question, c'est l'architecte.
Parce que, donc t'as peur d'un mariage qui aura duré qu'une année?
Ouais absolument. J'ai peur de ça et évidemment je sais que ça fait peur aussi aux Lensois parce que les supporters sont attachés à juste titre à Pierre Sage. Je pense que si tu es sur ces données-là, c'est-à-dire un budget de recrutement limité pour jouer la Ligue des Champions, pour être à la hauteur en Ligue 1 sans forcément jouer le titre, tu sais que c'est l'architecte qui va définir tout ça et qui va décider, y compris sur le recrutement. J'ai toute confiance en Jean-Louis Leca pour réaliser des bons coups, parce que ce qu'il a fait quand même, y compris pour Saint-Maximin récemment ou Flotovin, ce sont de vraies réussites. Mais pour le budget, à la limite pour les idées, je suis pas inquiet, puisque Hudson-Edouard, Thauvin, Saint-Maximin, toutes les idées étaient bonnes. Baïdou, même si on le connaissait. Donc moi, ce qui m'inquiète plus, c'est quel projet, quel cap et avec quel architecte, c'est-à-dire quel entraîneur sur le banc.
Gibault, rassure-nous.
C'est vrai que c'est une question. Non, mais c'est pas.
Ah, tu vas nous inquiéter. Je pensais bien dormir ce soir, mais finalement, je suis pas sûr.
Écoute, moi, depuis ce qui s'est passé à Brest, je me dis que. Je sais que bon, sa sortie n'a pas non plus été hyper appréciée, mais il y avait eu le cas de Baïdou. Il a fait une communication où il disait oui, je sais pas ce qui se passe, mais en fait bon, c'est que le staff médical ne voulait pas prendre le moindre risque d'une rechute parce que la fin de saison était hyper importante. Ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû recruter un défenseur central lors du mercato d'hiver parce qu'ils pensaient pas que Baïdou serait été aussi long et le jeune Celik c'était trop limité pour être titulaire indiscutable. Et on l'a vu parce qu'avec lui, Lens a pris quelques raclées et a perdu beaucoup de points. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté trouble en fin de saison sur la situation de Pierre Sage. On a entendu aussi la possibilité de voir Yannick Cahuzac revenir au club. Hein. Il était adjoint de Francaise il y a quelques années. On serait surpris de rien de toute façon. Moi j'ai connu Galtier champion de France avec le LOSC, qu'il a signé à Nice et ne pas jouer la Ligue des Champions. L'entente avec Olivier Létang n'était pas bonne. Donc tout peut arriver dans le football. On verra, mais je pense surtout c'est de bien finir, c'est de gagner cette Coupe de France. Et là je pense que ça sera un élément aussi déterminant. Si la coupe est gagnée, ça va faciliter les choses. Si c'est l'inverse, ça pourrait, moi je pense, casser peut-être une petite dynamique.
Ah oui, carrément. Maxence, le mot de la fin pour toi rapidement, j'imagine que tu veux que ça continue entre Pierre Sage et le RC Lens.
Oui, après, j'avais quelques infos, notamment sur le mercato, que peut-être tout le monde a, notamment sur une éventualité de Thorgan Hazard. Et aussi, dans le cas de départ de Sarr, il y avait.
Thorgan Hazard, c'est quasi fait, hein.
Ouais, et il y a aussi, je crois, un défenseur qui était formé à Barcelone de 24 ans, de Las Palmas, qui devrait être libre. Et qui devrait peut-être suppléer si Sarr venait à partir. Mais en tout cas. Bah, super saison, j'espère que Pierre Sage partira. Et puis,
comment ça, tu espères que Pierre Sage partira?
Pardon, je me suis totalement. Je me suis
le lapsus terrible, Maxence.
Non, non, non. Lapsus, quand même. Ouais,
non, non, non. Mais on a vu aussi que Cahuzac était un super entraîneur, c'est un entraîneur moderne. Donc, on va dire que c'est pas une catastrophe, mais je préférerais 100 fois Pierre Sage à Cahuzac. Hein. Parce qu'on a vu, c'est un coach calme qui sait reconnaître ses erreurs, et ça, c'est forcément apprécié dans le vestiaire.
Merci beaucoup, Maxence, d'avoir été
non, mais avec nous. Ça sera un choc, comme Franquès quand il est parti. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Après, le foot est tellement. Maintenant, ça bouge tellement vite dans les joueurs.
Et en dehors, Djibo, des dossiers qu'on vient d'évoquer, et de la saison suivante, et des problèmes budgétaires, et des soucis qu'il y a eu en cette fin de saison. Il y a tout simplement le fait que ce coach-là, qui mine de rien est arrivé dans la carrière un petit peu plus tard que d'autres, va avoir des trains à passer et des propositions à arriver. Et c'est déjà le cas. Et déjà dans la saison, il en a eu, en milieu de saison, avec des clubs qui changent d'entraîneur.
Comme Genesio, aller chercher un gros contrat
chercher ou pas, c'est-à-dire que non, pas forcément au bout du monde. Non, je pense vraiment à des championnats majeurs. Et il a marqué les esprits. Et déjà dans la saison, il faut savoir que c'est logique. Quand des clubs... soit anglais, espagnol, change de coach, il regarde et Pierre Sage fait partie de shortlist de pas mal de clubs. Donc c'est évident que pour lui, il ne peut pas ne pas regarder en tout cas les propositions de clubs importants quand elles se présentent à ce moment de sa carrière. Donc il y a évidemment dans la balance son évaluation de ce qui va et ce qui ne va pas à Lens, et peut-être, on va dire, son évaluation de la saison prochaine. Mais il y a aussi tout simplement la vie du foot qui fait que quand tu réussis une saison, que tu sois joueur ou entraîneur, oui, tu peux avoir envie de passer un cap et d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs en tout cas pour réaliser quelque chose de fort dans un championnat important.
Merci beaucoup Maxence d'avoir été avec nous au 32-16. Belle soirée à toi et puis belle finale évidemment de Coupe de France, ça sera face à Nice. Messieurs, dans quelques instants on va reparler de Nantes parce que Nantes est au bord du précipice, on le rappelle, on sera avec des supporters nantais pour parler de l'actualité mais aussi de l'avenir parce que Nantes devra se reconstruire a priori en Ligue 2. On vous rappelle coup d'envoi de ce match à 20h45 qui lance la 33e journée entre Lens et Nantes. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h28 en direct du studio Roland Courbis. Vous êtes sur RMC, l'avant-match du match entre Lens et Nantes. C'est le lancement de la 33e journée de Ligue 1 aux côtés de Florent Gautreau. Et nous sommes à Bollard, évidemment, avec Jean Baumel et Aurélien Tiercin. L'ambiance, messieurs, est en train de monter. On rappelle que le coup d'envoi est dans un peu moins de 20 minutes.
Oui, ça se remplit de plus en plus. On est allé à 80% de remplissage. Il y a quelques-uns qui traînent hein, pour boire une petite dernière bière.
Possible. J'en ai entendu sur le parking qui parlait de ça, effectivement.
Ah, mais c'est comme il fait beau, tu vois, il y a aussi la tradition de faire un petit barbecue à l'arrière de ta voiture parce qu'il y a des espaces verts. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Bollard, c'est vraiment à faire quand on est passionné de foot.
Et pour manger aussi des frites, bien évidemment, ça c'est très important.
Des frites sans sas.
Ah bah oui.
Fricadelles.
Gimbo.
Des frites sans sas d'ailleurs qui sont de retour dans le stade Bollard, parce que c'est un autre prestataire. Et c'est vrai que la direction
de
Benjamin Parot.
C'est l'after, Gimbo, peut-être.
Vous avez rétabli les classiques,
ouais,
c'est
parce
ça
parce que le soir on y était, on a eu la chance d'être nourri par les frites sans sas.
C'est magnifique. On sent
on a vu une entorse à notre régime alimentaire.
Et Jean-Paul Dambrine, qui est le patron des frites sans sas, qui n'a jamais vu un match à Bollard, puisqu'il est tout le temps dans sa baraque à frites. Et qui a tout le temps, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Et au son, il sait silence, gagne ou perd. Et c'est assez incroyable. Il fait des frites comme depuis 76. Bref. 50 ans de frites.
C'est vrai que c'est assez improbable. On a parlé de Lens, on va reparler de Nantes. Nantes qui a priori va retomber en Ligue 2. Flo, on le rappelle, hein, la dernière fois qu'ils étaient montés, c'était avec Michel Derzakarian lors de la saison 2013-2014. On entend cette petite musique. De toute façon, Nantes est dans l'erreur depuis de longues années, donc il faut mieux qu'ils tombent à l'échelon inférieur et qu'ils reconstruisent. Toi, tu es partisan de ça, ou tu as plutôt en exemple plein de clubs qui sont tombés en Ligue 2 et qu'on n'a jamais revu en Ligue 1?
Non, moi je pense surtout que si cette théorie pouvait être entendable, elle serait liée à un changement de gouvernance. C'est-à-dire que si tu changes de gouvernance et tu établis un nouveau plan sur quelques années en te disant voilà la stratégie qu'on va mettre en place sportivement, voilà comment on se réconcilie avec les supporters, voilà, etc., avec évidemment l'académie, enfin la Genelière qui a toujours été l'ADN de ce club, pourquoi pas. Mais là, tu repars avec les mêmes, c'est-à-dire les Kita, avec la façon dont ils fonctionnent, avec quel entraîneur, pareil, avec quelle relation au club entre le centre de formation et l'équipe première, etc., etc. Le staff médical aussi, parce que je crois qu'il y a un départ aussi du côté du staff médical à Nantes.
Oui, ça a explosé juste avant le match face à Marseille.
Ouais, juste avant Marseille. Donc, non, je te dirais que c'est pas une bonne chose, pas une bonne nouvelle, et il n'y a pas cette théorie du rebond. Elle vaut si tu as une stratégie et si tu as quelque chose de cadré. Là, dans les circonstances actuelles, c'est terrible parce qu'on a vu, comme tu as dit, d'autres scénarios derrière avec des clubs qui descendent et qui souffrent beaucoup plus. Là aujourd'hui, quand tu vas en Ligue 2, tu vois que Saint-Etienne, c'est pas simple de remonter, tu vois qu'il y a de vraies difficultés, et quand en plus tu as ces incertitudes au plus haut niveau du club, non, moi je pense que c'est une très très mauvaise nouvelle. Et vraiment, moi j'ai la sensation par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années, et ce qu'on voit quand on va au stade, puisqu'on parlait de Lens là, mais quand tu vas à la Beaujoire, c'est quand même aussi très impressionnant, d'un gâchis incroyable. Et même cette année, et même avec l'effectif actuel, c'est une équipe qui devait, à mon avis, se maintenir.
On rappelle qu'effectivement, tu parlais justement de la Ligue 2, il y aura la 34e journée qu'on vivra demain ensemble avec les matchs de Ligue 2 et notamment Saint-Etienne qui est actuellement 3e face à Amiens. Oui, Gibo.
Non, c'est Aurélien.
Aurélien, pardon, excuse-moi.
Pour, pour être un petit peu optimiste aussi, c'est que bon, les Kitas sont ce qu'ils sont, ils ont le bilan qu'ils ont, mais au moins avec ce genre de propriétaire, t'es quand même relativement à l'abri d'une banqueroute totale et d'un scénario à la Bordeaux par exemple. Donc ça, c'est déjà le point positif, et ça reste malgré tout un club attractif. On parlait tout à l'heure d'un coach comme Pantaloni qui a été contacté. Stéphane Gilly sera aussi reçu par la direction nantaise, et ce genre de coach là, le défi nantais, il attire toujours. Alors, malgré ça, tout, malgré les difficultés au 21e siècle.
Tu as raison, et pour les joueurs ça vaut, et ça vaudra sans doute pour le recrutement, mais pour le coach, tu arrives dans ce club, tu ne sais pas, tu es sur un siège éjectable dès la première journée, tu ne sais pas comment tu as. Ils prennent Luis Castro, dont ils savent les qualités et entre guillemets les défauts, dont ils savent un peu la politique et l'idée de jeu, et en fait derrière, en fait, tout se déchire entre père et fils, entre les différents on va dire clans de la Genelière et de la Beaujoire. Et si tu veux, c'est ça le vrai problème. Que tu mettes Pantaloni ou que tu mettes Stéphane Gilly, qui sont deux bons coachs, très bien, mais avec quel projet, avec quelle certitude? Maintenant, je te rejoins, déjà au moins tu peux attirer des coachs comme ça, tu peux attirer des joueurs, pourquoi pas.
On rappelle que Nantes a été racheté il y a 19 ans par Valdemar Quita à la famille Dassault. On accueille Samuel, supporter des Canaries, au 32-16 sur RMC. Bonsoir Samuel.
Bonsoir Samuel.
Samuel, est-ce que je peux me permettre, tu as quel âge?
J'ai 43 ans.
D'accord, donc tu as quand même connu Nantes, champion de France, tu as connu des beaux moments.
J'ai eu la chance et l'agréable et le merveilleux souvenir d'être sur la pelouse lors de l'envahissement contre Saint-Etienne en 2001.
Magnifique, c'était donc le dernier titre de champion de France des Nantais. Samuel, Flo disait, malgré cette saison chaotique avec trois coachs, avec des erreurs comme souvent, il y avait mieux à faire. Toi aussi, tu trouves que vous auriez pu vous maintenir, ou que là, vous êtes à votre place?
Non, je pense que le maintien, il était largement à la portée de Nantes. Après,
donc tu vois des équipes moins bonnes que toi?
Oui, j'ai vu des équipes moins bonnes que Nantes. Après, je rejoins ce que disait l'auditeur précédent. Je pense que ce qui manque actuellement et aujourd'hui, c'est une structuration déjà en interne, à commencer par une structuration au niveau sportif. Le mot et le poste qui manque au FC Nantes, c'est le directeur sportif, celui qui va fédérer avec l'entraîneur, mais aussi être aligné avec la direction. Il y a des postes qui sont avec des experts sur le terrain, des sportifs, et puis des personnes pour gouverner. Je sais que, et c'est le mot à chaque fois qu'on utilise quand on parle du FC Nantes, c'est la gouvernance, c'est le président Quita. Je rappelle que, et vous l'avez précisé aussi, le FC Nantes ne fait la une des journaux avec la DNCG, on n'entend jamais parler. Le président Quita, il a des défauts.
Il remet de l'argent à chaque fois.
Bien sûr, là, à la fin de la saison, c'est 45 millions qu'il va mettre de sa poche. Vous reprenez l'article du président de la DNCG qui a parlé la semaine dernière dans l'équipe, où les garanties financières sont demandées à des clubs, même les plus petits clubs comme le FC Nantes répond présent. Je pense qu'on peut demander aux supporters bordelais, aux supporters lyonnais.
Même à Grenoble, Le Mans, il y a plein de clubs qui sont tombés. Hein.
Voilà, donc évidemment, il a fait des erreurs, et je pense qu'il raisonne comme un chef d'entreprise avec un entraîneur. Dans toute entreprise, quand une personne n'a pas de bons résultats, ne travaille pas bien, elle est sanctionnée. Malheureusement, dans le football, ça en fait partie. Mais ce directeur sportif qui manque, il ferait le lien et le pare-feu un petit peu entre la partie sportive et la gouvernance.
Sauf que ce rôle-là, il est hybridement occupé par des agents qui sont très influents au sein du club nantais, par le fils, j'ai perdu Franck Quita, aussi à sa façon. Donc c'est ça, quand je parle de gouvernance, moi Aurélien a raison, c'est solide financièrement, il ne faut pas l'oublier, mais c'est l'organisation, tu as tout à fait raison, et la façon dont ça se passe. Quand par moment, c'est Franck Quita qui prend les décisions opérationnelles, mais que son père, en gros, ne peut pas plus voir en peinture l'entraîneur et que au bout d'un moment c'est le père qui a le dernier mot et que ça s'arrête, bah c'est parce que la stratégie n'est pas établie effectivement et l'organigramme non plus. Après, pour revenir juste à la saison et ce que tu disais sur le fait qu'il y a des équipes moins fortes que Nantes, moi je le pense. Après, ce qui est dommage sur la fin de saison, c'est que dans les matchs entre guillemets qu'ils auraient dû gagner contre, on va dire, des adversaires directs, ils n'ont pas été à la hauteur. Je veux dire, ils ont joué à Metz, à Auxerre, ils ont perdu à domicile, surtout contre Angers, à un moment crucial. Après, sur la fin de saison, où, comme je l'ai dit, ils jouent bien. Bah oui, mais le problème c'est qu'ils jouent PSG, ils jouent Marseille, ils jouent Lens maintenant, voilà, et Rennes même, donc ça devient un peu compliqué. Et même si dans ces matchs-là parfois ils ne méritaient pas la défaite comme à Rennes, en gros se réveiller trop tard, c'est pas oui. La solution, sachant que le calendrier n'était pas favorable.
Ça tient un peu de choses. Et vous savez aussi que quand rien ne va, vous pouvez jouer pendant 3 heures quand vous tapez les poteaux. Sur d'autres équipes, ça va rentrer. Et ben là, cette année, ça partait à l'extérieur. Après, vous rajoutez aussi l'excellente performance des derniers arbitres, notamment Monsieur Paradis contre
face à Brest.
Voilà, et tous ces faits qui sortent, qui sont aussi désastreux à la fois pour le club de Nantes, mais aussi pour le football français. Quand tout est aligné négativement, voilà, on est à notre place. Et malheureusement, mais oui, et vous l'avez dit tout à l'heure, s'il faut redescendre. À l'étage, enfin au niveau inférieur, et puis repartir comme a fait Lens il y a quelques années, ben oui, on signe tout de suite. Mais c'est quand même, moi je pense que le directeur sportif va devoir être choisi avant le futur entraîneur.
S'il y a un directeur sportif, parce qu'effectivement, c'est vrai que très souvent il n'y avait pas officiellement un directeur sportif. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Aurélien, un dernier mot, parce que c'est vrai que tu l'as rappelé, c'est important. Nantes est toujours dans les clous, paye. Aussi, on rappelle, il n'y a pas de problème au niveau du fonctionnement du club. Et il y a quelques jours, d'ailleurs, Valdemar Quitta, il avait donné une longue interview dans les colonnes d'Eurosport. Par rapport à Castro, est-ce que, parce que c'est la famille Quitta, on ne leur tape pas constamment dessus? Il a laissé quand même 15 journées à Castro, c'est pas rien. Il n'a pas été viré après 6 matchs.
Non, mais après c'est la façon aussi dont tu le vis. Derrière Valdemar Quitta qui dit que c'est un des pires coachs, une des pires décisions qu'il a prises, parce que derrière il fait couler Nantes et Levante, ce qui est d'ailleurs pas la réalité, parce que le défi Levante est pas totalement raté par Luis Castro en Espagne. Donc voilà, tu as quand même payé une clause libératoire à Dunkerque pour le faire venir, tu le désingues quelques mois après. Bon, c'est vrai que comme disait Flo tout à l'heure, il y a des coachs qui sont attirés par le défi nantais, mais quand tu vois ce qu'il en fait après, tu peux aussi te poser des questions sur peut-être la loyauté ou la sérénité, le sang-froid du président Quitta. Bon, au moins le club devrait survivre à une descente en Ligue 2. Il a pas dépensé énormément d'argent non plus en Ligue 1 pour construire cet effectif, et il reste des jeunes comme Louis Leroux, comme Tabibou, comme Guirassy. On verra ce que ça donne, et on rappelle que en cas de victoire ce soir, t'as encore une toute petite chance de vivre une dernière journée, peut-être un maintien en Ligue 1.
Oui, il faudrait effectivement aller chercher la place de barragiste justement aux dépens de Auxerre, mais si je dis ça, il va à Montgolais vient de rentrer en studio. Merci beaucoup Flo d'avoir été avec nous dans quelques instants. Lionel Charbonnier nous rejoint pour le match donc entre Lens et Nantes, lancement de la 33e journée de Ligue 1. Ça se passe sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h42, vous êtes sur RMC, le lancement de la 33e journée de Ligue 1 entre Lens et Nantes, aux côtés de Lionel Charbonnier. Salut Lio.
Salut Karine, salut à toutes et à tous.
Vous connaissez les enjeux du jeu de ce match. Une
salut
équipe Gibault, qui peut aller.
Rémi.
Ah, ben oui, salut Gibault, bien sûr.
Ben ouais, je ne les ai pas salués, mes copains.
Ben, on allait aller les voir dans quelques instants, mais Gibault a décidé de pourrir mon lancement. Gibault, on vient te voir dans quelques secondes. On est pressé, on doit parier avant, très cher.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Bonsoir, Yoann Guillet. J'imagine que Lens est favori.
Oui, très largement. 1,42. La victoire des Lensois. Le nul est à 4,90. Nantes est à 5,70. Écoutez, je vous propose un petit pari audacieux. Lens a pas mal de fois concédé l'ouverture du score ces dernières semaines. Je vais vous proposer Nantes qui marque le premier but, mais Lens qui s'impose à la fin. C'est coté à 7,75.
Ah ouais, c'est pas mal ça.
C'est pas mauvais. Hein.
Je vais essayer d'aller un peu plus. Moi, j'irai sur un match compliqué quand même pour les Lensois, avec nul mi-temps.
Côté à 2,40.
Et allez, 1-0, 2-0, 2-1.
Nul mi-temps
pour Lens à la fin.
Avec 1-0, 2-0 ou 2-1 pour Lens, c'est coté à 6,25.
Ah, c'est moins. D'accord.
C'est pas mal.
J'étais sur 8.
Ça reste pas mal.
Ouais.
Magnifique, merci beaucoup.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et direction Bollard, justement, où la fête est totale, où les figures marquantes du RC Lens sont célébrées, avec notamment Jean-Guy Wallem qui donne le coup d'envoi. Et dites-nous tout, les garçons, Jean Baumel et Aurélien Tirsain. On a vu un magnifique tifo avec de nombreux visages et également un message.
Ah oui. Ouais, avec sous la combativité le message, et puis les 120 ans du club, des figures représentées, hein, Gervais Martel bien sûr, le nouveau président depuis quelques années, Joseph Augourlian. On a vu le visage de Tony Vérel, Jonathan Gratti, Daniel Leclerc qui a été champion de France en 98, Eric Sicora, Debève, Moreira, Johan Demont, il y en a. Bon voilà, des noms qui. Il y a aussi l'international malien qui était parti à Sidou Keïta, qui a été un très très grand joueur, qui est passé par Lens, Sidou Keïta. Et ça donne le ton et c'est parti, le coup d'envoi donné par les Nantais. On va peut-être rappeler rapidement les deux compositions, et je pense que Sima
à droite, piston droit,
piston droit,
et
le
ballon à la tête.
On a bien senti le coup, donc Risser dans le but côté Lensois en défense, Sarr, Baïdou, Gagnou, les pistons à gauche, Udol, à droite Sima, Haïdar Abulatovic pour remplacer les absents, notamment le duo Thomasson Sangaré, et puis Saïd à gauche et Fofana à droite, et en pointe Hudson Edouard. Voilà le coup d'envoi qui est donné depuis 30 secondes, la compo nantaise
avec Anthony Lopez dans les cages, une défense à 3, Akapandier à Oisiem et Uros Radakovic, première titularisation de la saison pour le grand Serbe. Au milieu, Sissoko, Kaba, Le Penant, les deux pistons à droite, Gilbert à gauche, Kotza, et puis devant le duo offensif qui a fait mal à l'OM, Matisse Ablin et Ignatius Ganago. 0-0, 52 secondes de jeu, un match à la vie à la mort, on l'a répété, qualif en Ligue des Champions pour les Lensois à l'horizon, et maintien ou relégation pour les Nantais. Le FC Nantes qui doit absolument s'imposer ce soir à Lens pour espérer quelque chose. On rappelle, Gibo, quand même, que Lens est la deuxième meilleure équipe à domicile d'Europe derrière le FC Barcelone.
À seulement deux défaites, c'était contre Lyon lors de la première journée et face à Monaco. Le ballon qui circule dans la défense sans Yor avec Samson Baïdou. Baïdou qui cherche une solution, il la trouve avec Malang Sarr qui s'appuie sur Saïd qui est venu décrocher. Attention avec Ganago, l'ancien Lensois qui commet une faute là sur Malang Sarr. Le ballon revient au Lensois, 0-0, 1 minute 30 de jeu.
On l'a dit, l'ambiance est magnifique. On a vraiment apprécié cette célébration des 150 ans du club. Et ce soir, pour les Lensois, il y a la Ligue des Champions qui leur tend les bras. On rappelle la saison où ils l'avaient joué, c'était sous les ordres de Francaise lors de l'exercice 2023-2024. Et derrière, la chute avait été un petit peu plus dure. Et on voit également Coach Vahid qui est à nouveau dans les tribunes, parce qu'on rappelle qu'il avait été suspendu. Donc il va vivre à nouveau cette rencontre en ayant un petit peu de hauteur.
Oui, exactement. Suspendu. J'ai un petit trou de mémoire. C'était après quel match? Brest, je crois.
Brest, voilà, c'est oui. Quand il y avait eu l'expulsion, en fait.
Il méritait en plus, ouais, exactement. Il avait souffert dans les tribunes du Parc des Princes. On n'était pas loin avec des décisions arbitrales un petit peu en défaveur du FC Nantes. Contre l'OM, ça a été beaucoup mieux. Et là, il espère, en tout cas, il a motivé ses joueurs toute la semaine. Le ballon dans les pieds de Mathieu Udol sur le côté gauche pour Malang Sarr. Les Lensois qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se défaire du pressing nantais bien organisé avec Johan Le Penant qui vient embêter Ismaël Oganiou. On va filer sur le côté droit avec Sima.
Avec Ryan Fofana qui va très vite et qui a gardé le ballon, qui va entrer dans le sens de réponse. Il fait la différence, le centre dégagé, c'est mal dégagé. Ah, la reprise est ratée de la part de Buatouille qui réclame une main. Le ballon est toujours en jeu avec les Nantais qui se dégagent.
Non, il y a Lionel, pas de là, main, c'est grosse occasion pour les Lensois là.
Ouais, c'était une très belle occasion avec ce débordement sur la droite. Mais les Nantais sont bien regroupés, ils sont en place quand même, les Nantais. Hein, ils sont très disciplinés.
Ah, ouais. Écoute, pour l'instant, ils ont tenu 3 minutes. Ça c'est clair, 0-0. Nouveau ballon offensif pour les Lensois. Hudson Edouard sur le côté gauche pour Mathieu Udol. De nouveau pour l'avant-centre, Hudson Edouard. On est à 40 mètres des cages. Il a lancé le ballon dans la surface pour Bulatovic qui va récupérer sur le côté gauche de la boîte. Il se remet sur son pied droit, le centre au deuxième poteau. La tête d'un Lensois. Ça revient dans les pieds d'Amadou Haïdara à l'entrée de la surface.
Avec Sima qui accélère, qui continue sur son côté droit. C'est nouveau pour lui. Lui qui est plutôt devant dans l'attaque, mais il perd le ballon finalement. Ça va repartir en faveur des Nantais qui n'ont qu'une chose à penser, hein, c'est gagner. Hein, s'il n'y a pas de victoire, c'est la Ligue Ligue 2. Donc il faut aussi qu'ils prennent des risques avec un ballon profondeur mais récupéré rapidement par Baïdou et les Lensois avec Ismaïlo Gagnou qui lance en profondeur Bulatovic, peut-être pour Simon. Non, c'est Ryan Fofana. Et le joli tac de Kotza qui met en touche.
Et j'étais en train de bugger depuis tout à l'heure parce que je vois Fred Gilbert, habituel latéral droit, sur le côté gauche. En fait, c'est Kotza, Radakovic et Awaziem dans l'axe et Mathieu Akpandié qui occupe le poste de latéral droit. Donc je voyais le numéro 24 à gauche, ça me gênait depuis tout à l'heure. Donc c'est bien cette composition défensive pour le FC Nantes.
C'est ce qui était annoncé. 15.
0-0, et peut-être sur les écrans de télé, mais moi j'ai fait ma petite compo sur ma feuille et je me suis trompé, Lionel, tout simplement.
Ça arrive au plus grand.
T'avais pas mis Gilbert.
D'accord. Bah, si, mais à droite, Gilbert, comme d'habitude. Sauf que là, il joue à gauche, en fait.
Ouais,
et
okay.
C'est Akpandié qui est latéral droit. La passe ratée, là, par le milieu à Idara et Mathieu Idol, qui laisse filer en touche, justement. Donc, Akpandié, latéral droit, qui va s'appuyer sur Mohamed Kaba, dans le milieu de terrain nantais. Et on essaie de lancer Ganago. Ça va filer jusqu'à Robin Risser. Il va falloir montrer des moins paniqués, peut-être, pour les Nantais, qui essaient de jouer très rapidement, Lionel, vers l'avant, pour aller peut-être trouver la vitesse de Ablin et Ganago.
Ouais, peut-être un petit peu trop rapidement, justement. Peut-être passer par des intermédiaires avec trouver pourquoi pas Sissoko, même Le Penant qui revient parfois dans le milieu, lui demander de décrocher un peu.
Et Ganago justement lancé par Mohamed Kaba, mais ça va filer dans les gants de Robin Risser qui peut relancer sur Malanxa.
On va quand même rappeler qu'il manque 5 joueurs importants hein, dans l'effectif lensois, 5 titulaires hein. Les deux milieux de terrain qui fonctionnent très bien d'ailleurs, et le meilleur passeur Adrien Thomasson donc et Sangaré et qui sont suspendus. Abdoulhamid très très bon sur son côté droit, également suspendu. Et puis par précaution on a mis en retrait Thauvin et Saint-Maximin pour les présidents en vue du match contre le PSG et aussi pas prendre de risque parce qu'il y a une finale de Coupe de France à jouer le 22 mai prochain. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs importants qui ne sont pas là. Et l'accélération du LOL, Udol qui continue sa chevauche et l'ancien Messin. Il va peut-être lancer en profondeur pour personne, mais le ballon sera toujours lancé avec Sima.
Ouais, Sima sur le côté droit. Il attend Ismaïlo Gagnou. Il va plutôt repiquer dans l'axe avec Amadou Ayedara. Le Malien n'a pas de solution. Il va décaler. Côté gauche, Malanxar. Le jeu lensois est arrêté. 0-0. 6 minutes de jeu. Le défenseur central pour Saïd. Le 1-2 peut-être avec Ayedara. Il va rentrer dans la surface.
C'est bien joué.
Wesley Saïd. Le ballon raté en deuxième poteau. Il y avait en jeu au départ de l'action et les Nantais vont récupérer le ballon dans leur surface de réparation. Dégagement à venir d'Anthony Lopez.
Ouais, c'était bien joué ce jeu à 2-3, Gibo, hein. Sur les
carrément.
C'est comme ça qu'ils vont passer les Lensois parce que la défense nantaise est très regroupée, c'est en faisant des triangles sur les côtés avec des joueurs qui partent de la ligne, carrément de la ligne pour s'intégrer pleine vitesse dans les 16 mètres. Ça c'est bien joué, que ce soit à gauche ou à droite, pour l'instant ils le font bien les Lensois. Après faut coordonner les courses, là il y avait un petit hors-jeu, il y avait pas grand-chose mais il y avait hors-jeu.
Ouais, pour l'instant, Lens domine les débats, mais il n'y a pas eu d'occasion de but de part et d'autre à 0-0, 7 minutes de jeu avec Ganago qui tombe et l'arbitre de la rencontre, Monsieur Vernis, dit qu'il faut se relever. Il n'y a pas de faute. Le ballon revient dans les pieds, Lensois avec Mathieu Udol.
Ouais, le latéral, lui aussi, très très performant. C'est un des cadres ce soir, un but, cette passe décisive en Ligue 1. Il va repasser avec Samson Baïdou. L'appui, Wesley Saïd, petit intérieur du pied pour aller chercher Gagnou. Attention à ne pas perdre le ballon devant Le Penant. Il va aller chercher Abdallah Sima sur le côté droit. Ça, Lionel, quand même un attaquant de pointe au départ qui joue quelques fois sur le côté, mais piston, c'est quand même étonnant. Faut avoir confiance.
Il y avait le coup avec Sotoka par le passé à Lens.
Oui,
ouais, c'est vrai, c'était fait. Sotoka avait beaucoup ce rôle-là, c'est vrai. Mais
Sima, il a un profil encore plus offensif, peut-être.
Aujourd'hui, tu dois y aller. Quoi.
Attention, Saïd. Saïd qui prend le dessus. La frappe de Saïd et la parade d'Anthony Lopez. Mais quelle vitesse de la part de Saïd et la frappe, elle est détournée, le premier corner de la partie. C'est pour le Racing Club de Lens.
Ouais, magnifique occasion.
Ouais, c'est un bon ballon dans le dos de la défense nantaise avec Saïd qui frappe petit côté et Anthony Lopez qui veille au grain parce que c'est vraiment un bel arrêt son premier poteau comme ça. Alors justement, j'avais
Anthony qui va tirer le corner au deuxième poteau. Il y a la tête de Baïdou. Est-ce que c'est touché par un danger?
Oui, deuxième corner.
Ce sera un deuxième corner pour les Nantes. Vas-y Lionel, pardon.
Ouais, non, j'avais une petite question. Je sais pas si vous êtes au courant parce que Carlgren a fait une intérim qui était très très bonne et à chaque fois qu'il a été mis dans les buts, à chaque fois, et ça s'est bien passé pour le FC Nantes. Peut-être que Vaïd s'est posé des questions, savoir s'il devait faire revenir Anthony Lopez. Non,
Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Je pense que dans sa tête, c'est Anthony Lopez.
C'est capitaine.
Hein.
Ah, ouais. Ouais, ouais. Deuxième corner hein, pour les Nantais. Bulatovic, la tête de Gagnou s'est dégagée par les Nantais avec Joan Le Penant.
À chaque fois.
Ouais, il a été excellent contre l'Olympique de Marseille notamment, mais bah, c'était une blessure au pouce d'Anthony Lopez qui a bien recouvré ses moyens. Donc c'est le capitaine. Hein. C'est quand même lui qui assume aussi pas mal de fois auprès de la presse après les matchs. Bon, lui, il a une clause de départ en 4 décembre, donc on ne reverra probablement pas Lopez la saison prochaine. Mais il fait vraiment ses matchs, hein, Lionel. C'est un
36 ans. Hein,
ouais, mais si tu regardes Carl Green, ses stats à chaque fois qu'il a joué, ouais, je sais même pas s'il y a une défaite.
Non, mais t'as raison, Lionel. Je pense qu'il a de très bonnes stats.
Lopez sur le banc, tu te mets quand même dans la difficulté dans le groupe, Lionel.
Oui, attention, oui, le ballon là qui flirte et avec le ballon qui est lancé là dans le dos avec la récupération d'Ablin qui peut être dangereux. Hein, c'est l'atout numéro 1 pour les Nantais. Il va essayer de passer Malangsar. Il est dans la surface de réparation, le centre. Oh, ça vient sur la tête de Ganago, mais c'était un peu trop puissant. Le ballon ne va pas sortir. Il revient côté gauche.
Avec Fred Gilbert, justement, le droitier, le centre. Il y a la tête de Ganago. C'est contré par les Lensois et dégagé par Bulatovic en catastrophe. Récupéré rapidement par le FC Nantes avec Nicolas Kotza. Les Nantais dans un maillot turquoise vert d'eau, le maillot extérieur tout simplement face au jaune, au sang et or des Lensois. Le ballon à droite avec Acapandier.
Ouais, le ballon contré par Udol, ça sort en touche. 10 minutes de jeu, 0-0 pour l'instant, domination lensoise. Une occasion, même si elle n'était pas cadrée, mais elle était dangereuse. Elle a été détournée par Anthony Lopez sur la tentative de Saïd. Le ballon intercepté par les Lensois. Mais Bulatovic fait déposer du ballon par Kaba avec Ablin. Le ballon pour Acapandier, Kaba. Et le ballon qui est contré une nouvelle fois, ça sort en touche pour les Nantais.
Et Carl Green, c'est une défaite, un match nul, une victoire. Donc bon, allez, tout le monde est content.
Il y a de tout.
Ouais, mais ça fait 4
bonnes prestations.
Ouais. Ça fait 4 points, je pense qu'à cette moyenne-là, tu te maintiens.
C'est mieux, effectivement, que la moyenne nantaise depuis le début de saison.
On peut pas imputer les défaites à.
Oui, non, quand même. Il a sauvé très souvent.
Il y a des auditeurs qui vont nous dire ça. Non, c'était. Mais j'ai trouvé très très bon. Hein. Je trouve très bon ce gardien, d'ailleurs, à voir pour l'année prochaine.
Ouais, bah, il aura probablement sa chance la saison prochaine. Le jeu est arrêté par Monsieur Vernis le temps que Bulatovic remette sa chaussure gauche.
C'est lacé, les deux même.
Ouais,
11 minutes. Tout à l'heure, c'est avec Malangsar. Je sais pas, ils ont un problème de lacet du côté de Marseille Club de Lens.
Il existe les scratchs.
Il y a Will Steele qui est dans les tribunes.
Crampon scratch, ça existait ça, Lionel?
Non. J'aurais pas mis ça, impossible. J'aurais
pour
pas
faire
mis
des jongles, soit super ça.
Ah, mais Karine, t'as raison, Will Steele, il est dans tous les stades de France. Il cherche
du boulot
pour la saison prochaine. Ouais, on l'a vu à Jean-Bouin au Paris FC. Ouais. Il a parlé avec le président de Toulouse sur le plateau du diffuseur de la Ligue 1.
Il était invité de Cazard et Mister Drouet, là, dans les nuits du Cazard enchaîné. Non, il se propose. Voilà.
Il prospecte, effectivement. Voilà. Le ballon dans les pieds d'Aïda.
T'imagines un Will Steele avec Kita?
Ah bah, ça te chauffe. Bon, attention avec Udol. Udol qui a le ballon. Le centre, deuxième poteau. Il a un peu son contrôle, mais il va essayer de donner la frappe contrée. Ça serait un corner, mais il aurait dû faire un centre en retrait, je pense. C'était la meilleure solution.
Ou la même, mais à terre. Oui. À terre, parce qu'il y avait. Il me semble que c'était Hudson-Edouard au premier poteau qui l'a demandé.
Il y avait du monde, il y avait Fofana
aussi. Il faut la mettre.
Notamment 12 minutes et 20 secondes, 0-0 entre Lens et Nantes. Si on en restait là, la Ligue des Champions serait assurée pour Lens. Le FC Nantes serait relégué en Ligue 2. Le corner pour Andrija Bulatovic, deuxième poteau dégagé de la tête par Nicolas Kotza, par Radakovic d'ailleurs, et le ballon est vite récupéré par les Lensois.
Ouais, avec Ariel Fofana qui redonne vers Bulatovic, le centre directement dans les gants d'Anthony Lopez qui va pouvoir relancer la machine. Pour l'instant, Nantes est dominé, mais il n'y a pas non plus une multitude d'occasions, Aurélien. Ça fait 0-0, c'est plutôt logique, et l'ambiance qui continue à monter à Bollard.
L'ambiance qui monte effectivement en ensemble jusqu'à minuit, vous le savez, sur RMC, le live est juste après l'after foot. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Lens Nantes. À tout de suite. RMC,
l'after live.
Regarde le but.